Bonsoir. Merci d'être en notre présence ce soir. Je suis ravie d'animer cette conversation. Donc, je me présente, je m'appelle Jennifer Padjemi, je suis journaliste, critique et écrivaine. Et donc, ce soir, je suis avec Irsa Dalleward. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Julia Kerninen. Alors, Irsa, vous êtes poétesse, écrivaine, mannequin, scénariste et actrice anglaise, née d'une mère jamaïcaine et d'un père nigérian. Vous avez commencé votre carrière de mannequin et de poétesse à Londres, mais c'est véritablement à l'âge de 20 ans, quand vous êtes partie en Afrique du Sud, que vos carrières ont pris un tournant. Vous avez connu un premier succès populaire en partageant vos poèmes sur Instagram de manière quotidienne, mais aussi grâce à vos performances de spoken word. On a également pu voir vos mots dans des collaborations avec des marques, Burberry, Nike ou Valentino. Et vous avez écrit 4 ouvrages publiés. Donc, parmi ceux-là, Bone, en 2017, qui a connu un grand succès critique et populaire. The Terrible, en 2018. Et The How, Notes on the Great Work of Yourself, sorti en 2021 et écrit pendant le confinement. En 2020, on en parlera plus tard, est sorti Black is King, donc le film musical de Beyoncé. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour La vie précieuse qui vient de sortir en France, traduit par Julia Kerninen. Alors, Julia, vous êtes écrivaine et traductrice française, docteur en littérature américaine, et vous avez écrit de nombreux livres primés, dont 2 sous pseudonyme, avant d'écrire sous vos vrais noms. Donc principalement des œuvres de fiction, mais aussi 2 essais, dont un ouvrage collectif. Donc je vais citer dans les fictions « Le dernier amour » d'Attila Kiss en 2016, « Ma dévotion » en 2018, « Live Maria » en 2020, et plus récemment « Sauvage » qui est sorti l'année dernière. Donc vous avez commencé la traduction d'ouvrages de langue anglaise à française en 2019, avec « Ils vécurent heureux et n'eurent pas d'enfants ». Et donc, vous traduisez aujourd'hui « La vie précieuse » d'Irsa. Donc, avant de commencer cette rencontre, on va assister à une lecture par vous deux. Donc, je vous invite à rejoindre votre place.
Good evening. So this first piece from the book is called Marcia Daly Ward, aka Mum, and it is the chapter about my mother. Marcia Daly Ward, aka Mum, had a slim waist in the very beginning. Soft hair, a gorgeous smile, pearly arcs, those teeth, shining church doors. Marcia had smiling eyes, loose hips, could dance as well as anyone on television, lived with her grandparents in Kingston, Jamaica, and she was oh so kind, had some art about her. When told to go into the woods to choose a branch with which her grandfather would beat her little brother for some tiny offense, chose a weak branch that came apart in her grandfather's hand and earned a beating too. Marcia was 14 and still skinny when she flew over to England, alone and terrified with a baby in her belly. The boyfriend at that time was not the baby's daddy, but none of that mattered because everything was about to change. She had been sent for, finally, by her mother, and would be as far away from all of these men as God would allow. She trembled when stepping off the plane. She was about to see her parents for the first time in years. How would she tell them? How would she explain? Marcia is 16 with screaming baby Samson in the northwest of England. What a mess. And he's only getting bigger. A real life mini man, the sum of several fears, growing and growing faster than she can handle. She curses the Lord above. Marcia's parents step in, especially when little Samson rides his small tricycle all the way back to grandma's just to get away from Marcia and her mood swings. They raise him like a son, never mind a grandson. He even calls them mum and dad, leaves Marcia's title blank. Alone, Marcia trains to be a nurse, and so soon, Marcia, the student nurse, is 26. The man she loves is a dark, beautiful scholar with some height to him, some education, and a wife and a family in Nigeria. Guinness is his drink. He'll be the last one to leave the pub, the last one home, and almost every night he turns toward her with those irresistible glazed eyes, black shining. So she can't stay angry, even if she tries. But his other home calls, and the academic year ends, and their time will soon be up. He knows, and she knows, that he will not stay, but they make a child anyway. Yersa, she says. Yersa, I like the sound of that. Thank you.
Elle est beaucoup plus grande que moi. C'est embarrassant. Est-ce que je vais y arriver? Comme ça? Ouais. Excusez-moi. Marcia Daly Ward, alias Maman, avait la taille fine au tout début, des cheveux doux, un sourire magnifique, des portiques de nacre, des portes d'église resplendissantes. Marcia avait le regard malicieux, des hanches souples, pouvait danser mieux que quiconque à la télévision, vivait avec ses grands-parents à Kingston, Jamaïque, et elle était tellement, tellement gentille, avec un côté artiste. Quand on lui demandait d'aller chercher dans les bois une branche avec laquelle son grand-père battrait ensuite son petit frère pour une quelconque offense mineure, elle choisissait une branche fragile qui se briserait dans la main de son grand-père, ce qui lui valait d'être battue elle aussi. Marcia avait 14 ans et était toujours maigrichonne quand elle prit l'avion pour l'Angleterre, seule et terrorisée, avec un bébé dans son ventre. Son petit ami à cette époque n'était pas le père du bébé, mais cela n'avait aucune importance parce que tout allait changer. Sa mère l'avait enfin réclamé auprès d'elle et elle serait désormais aussi loin de ses hommes qu'il était Dieu possible. Elle tremblait en sortant de l'avion. Elle s'apprêtait à revoir ses parents pour la première fois depuis des années. Comment allait-elle leur dire? Comment allait-elle expliquer? Marcia a 16 ans et un bébé sans son qui hurle dans le nord-ouest de l'Angleterre. Quel bordel! Et il ne cesse de grandir. Un véritable homme miniature, la somme de plusieurs peurs. Il grandit et grandit, plus vite qu'elle ne peut le gérer. Elle maudit le Seigneur. Les parents de Marcia interviennent, surtout quand le petit Samson roule sur son petit tricycle jusqu'à la maison de grand-mère juste pour s'éloigner de Marcia et de ses sautes d'humeur. Il l'élève comme un fils, jamais comme un petit-fils. Il les appelle même « papa et maman » et écrit dans la case de Marcia « néant ». Seule, Marcia étudie pour devenir infirmière. Alors bientôt, Marcia, l'étudiante infirmière, a 26 ans. L'homme qu'elle aime est un bel universitaire à la peau sombre avec du charisme, de l'éducation et une femme et une famille au Nigeria. Il boit de la Guinness. Il est toujours le dernier à quitter le pub. Le dernier à rentrer chez lui et, presque tous les soirs, il se tourne vers Marcia avec ses yeux irrésistibles, vides, brillants d'une lueur noire, si bien qu'elle ne peut pas rester en colère, même si elle essaie. Mais son autre foyer l'appelle et l'année académique touche à sa fin et leur temps ensemble sera bientôt fini. Il sait et elle sait qu'il ne restera pas, mais ils font tout de même un enfant. Irsa, elle dit. Irsa, j'aime comment ça sonne.
Donc vous venez d'écouter des extraits de « La vie précieuse » qui vient d'être publié aux éditions de La Croisée. Dans ce livre hybride qui invoque aussi bien la poésie, la prose, vous parlez de votre mère, Marcia, votre frère, Roux, et ce père inconnu, de l'éducation reçue par vos grands-parents adventistes, chez qui votre mère vous a envoyé, mais aussi la période où vous avez commencé à comprendre certaines choses, dont votre condition de femme noire, du regard porté par les autres, par les femmes, par les hommes, et votre sexualité, par les hommes, par les femmes, et parfois dans des conditions troubles et ou violentes. J'ai une question qui me vient tout de suite, Irsa. C'est que vous écrivez « Tout ce qui me vient, c'est la beauté rend tout supportable. » Et c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup à la lecture du livre. C'est beau, c'est dur. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous retenez de votre mère ? Qu'est-ce que vous avez appris d'elle ?
So thank you for that question. I think, and I've never been asked that question before, so I really appreciate that worded like that. But I think the things that I learned is as a stoicism, and you know, to really think of the alchemy that occurs when difficult things happen. There's a reason for these things. And I think when you start to view life like that, the poetry of it, it opens things up. You see the spectrum of things in your past and things in your present that are less than desirable, and you can use them. You can use everything. So I really... That's the thing that I learned from her. And she had a shorter life than we would have liked, but it's such a powerful message.
Je vous remercie pour cette question qu'on m'a jamais posée ainsi. En tout cas, je l'apprécie d'autant plus formulée dans ces termes-là. Ce qu'elle m'a appris, ma mère, ce que j'ai appris d'elle, c'est une forme de stoïcisme. Et aussi, elle m'a appris à voir cette alchimie qui se produit quand on rencontre des difficultés. Parce que quand les difficultés se présentent, il y a aussi des raisons qui les expliquent. Et quand on est justement capable de voir, c'est une forme de poésie, la vie sous cet angle-là, on parvient à situer les choses sur un spectre entre le passé, le présent, les choses qui nous sont arrivées, des choses qui sont parfois vraiment tout sauf désirables. Et on parvient à se servir de tout ce qui s'est passé, à percevoir justement cette alchimie, cette continuité. Et elle a eu une vie plus courte que ce qu'on aurait voulu, mais ce message-là qu'elle m'a transmis est particulièrement puissant.
La manière dont vous parlez de votre petit frère, Roux, est très belle. Et j'ai l'impression que c'est peut-être le seul homme de votre vie qui vous a vu, qui vous a respecté. Est-ce le cas?
No. I think that in maybe in the early days when you don't know what you deserve, then it's easy to it's easy to perhaps look for validation everywhere. But when you do know, then that's what you find. And yeah, I'm lucky to have brothers, and yeah, I appreciate them every day. But yes, I think, again, as just like your first question, life is very much a mirror. You get in, you give out, you get back. So I think it really lies in the perception and the intent.
Non, peut-être que au tout début, quand on est jeune et qu'on ne sait pas ce qu'on mérite, ça peut être effectivement, on peut avoir facilement la tentation d'aller chercher une forme d'approbation, de validation un peu partout. Une fois qu'on sait, c'est ce qu'on trouve justement partout. Et j'ai la chance effectivement d'avoir des frères. J'apprécie leur présence et ce qu'ils sont au quotidien. Mais ça renvoie à ce que vous disiez à votre première question en fait, qui est tout simplement que la vie est un miroir. Donc en fait, ça va dans les deux sens. C'est une question de perception, c'est une question d'intention aussi, mais ça marche dans les deux sens.
Là, j'ai une question pour toutes les deux. Que ce soit Irsa dans vos écrits ou Julia, il y a quand même l'idée que partir aide à mieux créer, ou en tout cas aide à se libérer à un moment donné. Irsa, à un moment, vous écrivez « Si tu doutes, bouge ». Et donc, est-ce que vous ressentez aujourd'hui encore ce besoin de devoir partir pour mieux créer ?
Moi, l'impression que j'ai eue, c'est que d'être beaucoup partie à l'époque où je pouvais partir. Maintenant, je suis moins mobile avec les enfants. Mais d'être partie autant de fois que je voulais quand j'étais jeune, ça fait que maintenant, je peux partir sans partir. Maintenant, je peux. Mais ça a été indiscutablement le fait de partir la première fois, un moment fondateur dans mon travail et ma construction. Et la première année que j'ai passée loin de chez moi à Budapest, c'est la chose à laquelle je reviens à chaque fois que je doute de ce que je suis en train de faire, de est-ce que je suis capable d'être un écrivain, est-ce que je suis capable de continuer à être un écrivain. Je sais que je suis partie, et ça, c'est le truc qui me tient encore.
So I still have my wandering spirit. And I really, I'm blessed to be in, you know, a Venn diagram of careers, which mean that comes with the job. So I'm able to create. I've always found that the stability, the centeredness is something I take around with me. So it really doesn't matter where I go. Now it's Los Angeles, it was New York. We'll see what happens next. But I think I'm very good at stabilizing myself and feeling that center, you know, building the home that goes around with me.
Moi, j'ai toujours mon esprit de vagabondage, mais j'ai la chance d'être à la croisée de plusieurs carrières, et donc c'est quelque chose qui fait vraiment partie du travail, en fait, de pouvoir bouger. Et par contre, j'ai vraiment le sentiment que le centre, l'endroit où je suis, la stabilité, c'est quelque chose qui peut m'accompagner, voyager avec moi, que ça peut être n'importe où. Ça peut être Los Angeles, ça peut être New York, on ne sait jamais ce qu'il y aura ensuite, mais je crois que j'ai une très bonne capacité à me stabiliser et à construire le foyer que j'emmène un peu partout avec moi.
Irsa, dans votre récit de la vie précieuse, on ressent très tôt, en fait, dans votre vie, qu'on a porté un regard sur vous, sur votre corps, sur votre physique. Il y a même ce moment où votre mère vous chasse presque parce qu'elle a peur de ce que ce physique peut faire. Et la manière dont les hommes ont eu des fantasmes, ont pu aussi parfois traiter ce corps, j'aimerais savoir comment vous avez repris le contrôle sur ça.
I think that you have to take it. It won't necessarily be given to you. But also you have to, first of all, you have to ascertain what that is, what it means, what you want to be part of, how far you want to go with it. Does it mean that you fit into like a stereotype? Does it mean that you use the way that you are perceived to get the things you want? Does it mean that you reject it completely? I think it's different for everyone, and I think you have to find a way that doesn't chip away at you and also doesn't slice parts of you off. You also don't want to ignore very valid, very, very beautiful parts of your existence either. I think you've got to make peace with yourself, what you want to leave in the world, what you want to take, what feels good, what used to feel good but doesn't feel good anymore. It's a moving equation. It should be moving.
Alors ce contrôle, je crois qu'il faut le prendre, hein. C'est pas toujours quelque chose qui vous est octroyé. Et d'abord, il faut savoir ce qu'on veut, jusqu'où on a envie d'aller, à quoi est-ce qu'on a envie de participer. Est-ce qu'on a justement envie de correspondre à un stéréotype, à un cliché? Est-ce qu'on a envie de s'en servir parfois pour obtenir peut-être quelque chose qu'on souhaite? Ou est-ce qu'on a envie de le rejeter totalement? Et ça, c'est un choix qui peut être différent pour chaque personne. Je crois qu'il faut trouver une manière de ne pas se dévaloriser et surtout de ne pas en même temps se couper aussi de parts de soi qui peuvent être tout à fait valable et tout à fait belle de part de son existence. Donc c'est plutôt une envie de faire la paix avec soi-même et de réfléchir à des choses qui peuvent être agréables à un moment et puis plus l'être à un autre, à ce qu'on a envie et quelle empreinte on a envie peut-être de laisser dans le monde, mais qu'est-ce qu'on a aussi envie de reprendre avec soi. Et je crois que c'est une équation qui est sans cesse en mouvement.
Alors j'ai une question plus pour Irsa, mais Julia pourrait y répondre à un moment. Il y a deux termes, deux mots, deux expressions, j'ai envie de dire, qui reviennent souvent. C'est le pouvoir-peur et le terrible, qui est même le titre de votre livre en langue originale, The Terrible. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire vraiment.
So first I'll talk about power fear. And power fear is the feeling, especially as an underage girl, that what you, or what is being given to you, or what you think you have, is perceived as powerful. And it's also fearful because you're like, well, what will I do with this thing that seems to control him or him, when it's not your power. It's like it's an inverted thing that is still a threat. So that's power fear. You know, it isn't what it looks like. And then the terrible was really like my own like tongue-in-cheek like joke. The terrible can be a lot of things. It's like this, almost this formless monster thing that hides under the bed or in the closet. It's like it's grief, it's fear, it's depression, it's anxiety, it's addiction. It's all of those things that if you do not address it, it just keeps coming to you. That's why I call it the terrible. It's like a Dr. Seuss like monster or something that, you know, is there, it's there, it's there. So it's something that's close to you and also part of you and something that you must reckon with to get to where you want to go. So that's the terrible. Not always terrible.
Alors je vais commencer par le pouvoir-peur. Le pouvoir-peur, c'est cette sensation qu'on a en particulier quand on est encore une toute petite fille, d'avoir quelque chose, peut-être don, ou en tout cas cette chose qu'on a la sensation d'avoir, qui semble être un pouvoir extrêmement puissant et qui est en même temps quelque chose de très effrayant parce qu'on ne sait pas forcément justement quoi en faire. C'est cette sensation que ce don, ce pouvoir, ce qu'on possède, exerce une influence sur cet homme ou cet autre homme, et en même temps qu'il est un pouvoir, il est aussi une menace. Donc c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait ce qu'il paraît être. Et le terrible, c'est presque une création ironique, une façon de faire une sorte d'humour noir là-dessus. C'est beaucoup de choses à la fois, le terrible. Ça peut être le monstre du placard. Ça peut prendre cette forme-là, celui qui rôde sous le lit des enfants. Ça peut être le chagrin, ça peut être la peur, ça peut être la dépression, ça peut être l'angoisse, ça peut être l'addiction. C'est beaucoup de choses à la fois. C'est toutes ces choses en fait, qu'on n'arrive pas à gérer et qui n'arrêtent pas de revenir. C'est vraiment, quelque part, oui, le monstre des livres pour enfants. C'est quelque chose qui est à la fois proche de vous et qui fait partie de vous, et en même temps quelque chose qu'il va falloir apprendre à reconnaître et à affronter pour aller là où on a envie d'aller.
Oui, et dedans, vous citez la dépression, et c'est pour ça que je disais que ça pouvait être une question qui vous est destinée à toutes les deux, parce que même dans la traduction, je vois le terrible, j'ai envie de garder ce terme pour pouvoir décrire ce sentiment inexplicable de quand on vit des malheurs ou quelque chose d'aussi grave qu'une dépression. Et comme disait Irsa, c'est l'idée de devoir le reconnaître et de l'identifier, même si on ne le voit pas toujours. Et donc, je voulais savoir, Julia, comment vous avez compris en traduisant ce mot.
Les deux émotions, les deux pouvoirs que vient d'écrire Irsa, ce sont des choses sur lesquelles je n'ai pas ou très peu écrit dans mon propre travail, et pourtant ce sont des émotions que je connais moi aussi, et c'était très troublant de les découvrir dans le texte décrites de façon aussi précise. Je pense que c'est des émotions que le pouvoir peur, que toutes les filles connaissent à un moment ou un autre, effectivement plutôt dans la jeunesse, mais moi je n'avais jamais lu ça comme ça dans aucun autre livre, donc j'ai trouvé l'expression power fear extrêmement précise pour dire ça, et donc la traduire de cette façon-là, très fidèle, semblait la bonne façon de le dire, c'est exactement ça, et d'en faire un mot collé comme ça, était à mon avis la bonne façon de suivre ce que disait Irsa et de décrire cette émotion-là. Et le terrible, aussi effectivement ce mélange de plein de choses, cette espèce de comme autre personne qui parfois prend le dessus sur nous, et on a l'impression que c'est la mauvaise version de nous peut-être, ou une sorte de fantôme qui nous hante. Alors moi ça m'a beaucoup parlé ça, donc c'était à la fois oui troublant d'avoir la tête dedans comme ça, et en même temps c'était limpide.
Donc en parlant de santé mentale et de dépression, je vous invite à lire le prochain extrait. Peut-être Irsa, vous pouvez commencer.
Okay, the next part is chapter 13.9, or how it begins. Your friend's dad likes to joke about the length of your legs, asks you why you're not a supermodel yet, tells you he's sure you'll go far if you try. You like the look in his eyes when he says it. 14.0. Your friend's dad is looking at you. Your friend's dad likes you. Your friend's dad says, look, I can't have you walking home at this hour. Put your bike in the back of my car and I'll take you. There is musk in his voice. Just like that, something shifts and you know something and he knows something, but nobody knows for sure. You have something to trade and you're not sorry. Smile back at your friend's dad in the rear view mirror. Hold his gaze, daunting as that might be. Let him drive you home again, and let him say again that you've got legs that go on forever. Notice it takes him 20 minutes to drive you home when you live 10 minutes up the street. Feel good about that. Know that he wants to be around you. Play into the power fear. Pretend you dropped your purse and stretch out on the back seat like a cat. smile at his confusion in the dark, then say thank you and bolt quickly soon as he pulls up to your front door, before he has time to do or think a thing, before he has an issue. Feel funny when you get in the house and relieved, the wrong kind of tingling. Make an excuse the next time he wants to drive you home. With a pert black body and a wet, wet mouth, maybe anyone's dad can be yours. You're the danger.
Où comment ça commence? Le papa de ton ami aime plaisanter sur tes longues jambes. Il te demande pourquoi tu n'es pas déjà top modèle. Il te dit qu'il est sûr que tu iras loin si tu essaies. Tu aimes ce que tu vois dans ses yeux quand il dit ça. 14.0 Le père de ton ami te regarde. Le père de ton ami t'apprécie. Le père de ton ami dit « Écoute, je ne peux pas te laisser rentrer à pied toute seule à cette heure. Mets ton vélo à l'arrière de ma voiture et je vais te déposer. » Il y a du musc dans sa voix. Juste comme ça, quelque chose se déplace et tu sais quelque chose et il sait quelque chose. Mais personne n'est sûr de rien. Tu as quelque chose à échanger et tu ne t'en veux pas. Tu rends son sourire au père de ton ami dans le rétroviseur intérieur. Tu soutiens son regard. Aussi intimidant que ce soit. Tu le laisses te ramener chez toi, encore, et tu le laisses dire, encore, que tu as des jambes sans fin. Tu remarques qu'il met 20 minutes à te conduire à la maison, alors que tu vis à 10 minutes. Tu te sens à l'aise avec ça. Tu sais qu'il recherche ta compagnie. Jouer du pouvoir peur. Tu fais semblant d'avoir laissé tomber ton sac et tu t'étires sur le siège arrière comme un chat. Tu souris de son trouble dans l'obscurité et puis tu dis merci et tu files en vitesse dès qu'il s'arrête devant ta porte d'entrée, avant qu'il n'ait le temps de dire ou de penser quoi que ce soit, avant qu'il n'ait un souci. Tu te sens bizarre quand tu entres dans la maison et soulagé, le mauvais genre de picotement. Tu trouves une excuse la fois suivante où il veut te reconduire à la maison, avec un corps noir aussi rebondi et une bouche mouillée, mouillée peut-être, que n'importe quel père peut être à toi. C'est toi le danger.
Donc on a eu là l'illustration même du pouvoir peur dont on parlait juste avant. Julia, comment on traduit une vie qu'on n'a pas vécue?
Comment est-ce qu'on traduit un livre qu'on n'a pas écrit? C'est toujours pareil. La question de la traduction, c'est toujours une sorte d'oscillation entre est-ce qu'il faut être très fidèle ou pas trop fidèle. Moi, j'ai pas une immense expérience en traduction, mais ça fait quand même un certain nombre de livres. Et je crois que ma position, ma conclusion, ma politique, c'est que le rôle du traducteur est de faire en sorte que le texte à l'arrivée soit aussi bon que le texte de départ. Et pour le faire, on est obligé de ruser, parce que les langues ne sont pas construites de la même façon. Et donc, il y a certaines choses que je trouve extraordinaires dans la langue anglaise qui sont liées de façon trop précise à sa grammaire et que donc je ne peux pas reproduire en français. Il faut trouver des dérivatives, d'autres façons de le faire. Donc, traduire un texte, pour moi, c'est vraiment rentrer dans la matrice, lire ce livre comme, à part les autres traducteurs, personne ne le lira en réalité. Un auteur ne peut, je crois, pas lire son propre livre d'une certaine façon. Et les lecteurs le liront peut-être 10 fois, mais jamais autant de fois que nous, les traducteurs, on le fait. Donc, je rentre dans le texte en essayant d'emmener avec moi mes connaissances de la langue française et mon ignorance du texte tant que je ne l'ai pas sillonné de tous les côtés. Et j'essaye d'entendre la voix de l'auteur ou de l'autrice et de lui faire honneur. C'est ça.
Et vous, Irsa, qu'est-ce que ça fait d'être enfin traduite en français? et notamment d'être traduite tout court dans d'autres langues. Quand on raconte quelque chose de si personnel et de si propre à un environnement qui deviendra un récit en fait pour le monde entier, qu'est-ce que ça vous fait?
I think that you have to let go of, let go, just let go, and trust that the person in whose hands this text is can service their language and their culture. And I think it's easy for poets to become so rigid because we say things a certain way. But I trust it. And this is the first translation that I have some hope in hell of reading and knowing what's going on because I studied French. So though my speaking French is not good, it's when I see the words, I can see that, I can see like the diligence of the text and how it melts. It just feels like something's, you know, the essence has been melted into another language, and it's a great feeling. Yes, so thank you, Julia.
Je crois qu'il faut lâcher prise avant toute chose et faire confiance à la personne entre les mains de laquelle le texte se retrouve, faire confiance à sa capacité justement à servir sa langue, à servir sa culture. C'est facile quand on est poète en particulier d'avoir une forme de rigidité parce qu'on dit les choses d'une certaine façon, donc une tentation de la rigidité. Mais cette traduction-là, en tout cas, c'est la première pour laquelle j'ai un petit d'espoir de pouvoir lire le texte, puisque j'ai fait du français, j'ai étudié le français, même si je ne le parle pas bien, je suis capable quand même de lire les mots et de voir avec quelle diligence justement il a été traduit, avec quel effort, et de percevoir une forme de fusion, le sentiment que l'essence du texte s'est fondue dans une autre langue.
Alors, vous êtes une poétesse. Et il y a un terme qui est beaucoup revenu quand vous avez été révélé au grand public, c'est Instagram poète, que vous embrassez, mais que ça ne vient pas forcément de vous. Mais je sais que votre utilisation des réseaux sociaux, et notamment récemment sur TikTok, vous êtes présente. Et vous avez annoncé que vous aimeriez poster un poème par jour, ou en tout cas essayer pendant l'année. Et j'aimerais savoir comment votre relation avec les réseaux sociaux a évolué depuis justement que vous avez commencé à publier en ligne.
Well, with the TikTok, I've already failed because I've missed some days, but then I come back and then I'll post a poem, I guess, tomorrow. But I think it's important because I know that there is a lot of prejudice about using social media and poetry, but why not? It shouldn't be in this inaccessible thing. So many people now love poetry because they found it in a place where it apparently shouldn't be. So I think it's a great thing to bring poetry to people for whom it would have been like a closed shop. And let it be accessible. There are people, there are very talented people out there who just need to see an example of something and then they can run with it. So if I'm part of that, if they have to call me an Instagram poet, it's fine. Yeah.
Bon, alors pour ce qui est de TikTok, c'est déjà raté puisque j'ai loupé quelques jours, mais à mon retour, demain peut-être, je publierai un nouveau poème. Mais je pense que c'est très important. En fait, il y a beaucoup de préjugés sur cette idée d'associer la poésie aux réseaux sociaux, alors que pourquoi pas ? La poésie, ce n'est pas forcément quelque chose qui doit rester du domaine de l'inaccessible. Il y a de plus en plus de gens qui se mettent à aimer la poésie parce que justement ils trouvent accès, parce que ça ne reste pas derrière une porte close, c'est une façon de rapprocher la poésie via les réseaux sociaux d'un tas de gens, et je pense que c'est tout à fait souhaitable et intéressant de la rendre accessible. Il peut y avoir des tas de gens talentueux qui vont voir un exemple et qui vont peut-être poursuivre cette carrière de cette façon-là, et donc si je participe à ce mouvement, eh ben, on peut m'appeler poétesse Instagram, il n'y a pas de problème pour ça.
Julia, vous avez aussi une relation en tant qu'écrivaine avec les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir évolué par rapport à ça ces dernières années ? Est-ce que c'est un outil que vous trouvez intéressant ? Pourquoi ?
Je me sens pas très efficace dans ce domaine-là. C'est pratique, ça fait une interface, ça permet de... Moi, j'utilise les réseaux sociaux. Pourquoi ? Je sais pas. Sur Instagram, des trucs de nouvelles, des trucs de... J'écris pas de texte sur Instagram. Je pose des photos pour me rappeler. Ça sert d'album photo. Alors, il y a tout un débat de est-ce qu'on doit exposer comme ça sa vie publique. Mais il me semble qu'il y a des problèmes bien plus graves et j'arrive pas à m'intéresser à celui-là du tout. Et puis, c'est vrai que bon, c'est un truc complètement contemporain. C'est-à-dire que quelqu'un lit notre livre et veut savoir où nous trouver. Et c'est un espace comme Instagram, en l'occurrence, c'est entre le privé et le public. Alors, ça semble un truc assez pratique de ce point de vue-là. Mais je pensais que vous alliez plutôt me parler de slam, à vrai dire. Je pensais que vous alliez me poser des questions sur la poésie.
Oui, c'était la prochaine question. Parce que votre passé, justement, de slameuse que vous revendiquez plus forcément, parce que j'ai même vu une interview où vous dites que vous avez arrêté il y a une dizaine d'années. Plus, combien d'années ?
J'ai arrêté quand j'avais 18 ans, ça fait presque 20 ans.
Ma question, justement, c'était le lien entre la poésie et le slam en France. Le slam a été... un peu décrié parfois, vu comme une poésie moins grandiose, moins belle. Qu'est-ce que vous retenez justement de cette période ?
J'y pensais avec ce que disait Irsa sur le fait de rendre la poésie accessible à tous et de ne pas écouter des grandes voix qui voudraient que ça appartienne seulement à certains endroits. Moi, j'ai pratiqué très activement le slam entre mes 15 et mes 18 ans. Donc, c'était les premières années du slam en France. Le slam qui avait donc été créé par un ouvrier à Chicago qui proposait de lire de la poésie dans les cafés pour la faire descendre de son piédestal et la donner à tout le monde. Et mon souvenir de ces trois années vraiment très intenses, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire ce qui se passait sur les scènes slam à Paris, mais aussi en province. Ensuite, Grand Corps Malade, qui est merveilleux, a émergé de tout ça pour des raisons évidentes de talent. Et puis le slam est devenu quelque chose qui a été beaucoup plus lié à la musique. Et puis petit à petit, quelque chose a disparu. Mais ces trois premières années, dont moi je ne voyais en plus que des bribes, parce que je vivais à Nantes et donc je venais à Paris, mais je n'étais pas au cœur du réacteur. Oh, mais quel endroit ! C'était des cafés bondés, et puis il y avait le vieux monsieur qui vient dire un poème sur sa femme qui est morte, et puis il y a le rappeur qui progresse sur son texte de scène en scène, et puis il y avait des anciens chanteurs de rock qui venaient faire quelque chose, et puis des héritiers de plein de choses différentes, et puis une toute petite fille comme moi qui venait écrire des poèmes nuls, mais on était tous ensemble et c'était aussi une communauté d'échange, d'apprentissage. Le slam à une époque, ça a été vraiment un chaudron extraordinaire de créativité, d'amitié, d'espoir et d'une énergie complètement dingue. Et c'est important, je trouve, de ne pas oublier ça.
Et pourquoi vous avez arrêté ?
La scène changeait et je grandissais. Et quand j'étais entrée dedans, j'étais toute petite et très curieuse du monde des adultes. À 18 ans, je voulais apprendre des choses toute seule, plus.
C'est le lien que je voulais faire entre le slam et la poésie. Et pour la prochaine question, j'aimerais faire le lien entre la poésie, même la littérature de manière générale, et le divertissement, en tout cas, cette idée d'emprunter des codes de l'un et de l'autre pour créer quelque chose de nouveau. Et je pense qu'il y a plein de personnes dans la salle qui aimeraient savoir, Irsa, votre collaboration avec Beyoncé. Oui, cette question, elle est arrivée, forcément.
Well, It happened by, well, it happened out of the blue. And a friend of mine called me and he was directing with Beyoncé, and he showed her my work. And then I think 2 days later, I was in the studios making the poetry. And it probably sounds unbelievable, but I think that when you are like working in your truth, so for me that's poetry or it's writing, it's surprising just where it will take you and how you feel when you're in those spaces. And I think because it's a thing that's closest to me, it's almost as though you go with it. You let what you're doing take you without having too much of a thought about it. And I know it sounds like I'm minimizing it, but you're in service to something else, you know, when you're doing what you do. And so what was it like? It just felt like I was going to get to work. It was at a larger stage. And I was just going to do my best with what I'd been given to do. And it's really as simple as that. But it was a good experience. It was one of those markers in life. Because I don't know. I'm not someone who often thinks about things and gets high on things. But it was one of those moments where I thought, no, you have to really sit with this. Like, this is great. And then I was back home, and yeah, some things in life are dreamlike, but they're part of the story. And I think that coming from this is significant, if not always for me, for someone else who's watching.
C'est arrivé un peu sorti de nulle part, en fait. Un ami à moi qui travaillait avec Beyoncé m'a appelé, il lui avait montré mon travail. Et en fait, 2 jours à peine après, j'étais en studio à enregistrer ses poèmes, à travailler sur ses poèmes. Donc ça paraît complètement incroyable, hein, je m'en rends bien compte, mais je crois que quand on fait ce qu'on fait et qu'on fait quelque chose qui est justement aussi intime, aussi proche vraiment de notre essence même, il y a une façon de se laisser porter, en fait, on suit le mouvement et c'est ce qu'on fait, en fait, qui va nous entraîner dans une direction sans qu'on ait même pleinement conscience de ce qui est en train de se passer. Je sais que j'ai peut-être l'air de minimiser cette expérience et ça a été une expérience incroyable, mais je crois que quand on fait ce qu'on fait, on fait le travail que nous faisons, la création que nous faisons, on est au service aussi de quelque chose qui nous dépasse. Et la sensation était évidemment incroyable. C'était celle d'avoir accès tout simplement à une plus grande scène, une audience plus large, et de faire de mon mieux, comme je le fais d'habitude, avec les armes qui sont les miennes. Ça peut paraître... voilà, une façon de minimiser encore une fois, mais c'était aussi simple que ça, mais c'est une bonne expérience évidemment, un moment très fort dans ma vie. Je ne suis pas quelqu'un qui a tendance à beaucoup réfléchir aux choses ou à s'emballer ou se laisser enivrer par ce qui arrive, mais c'est un de ces moments où je me suis dit là quand même, il faut que tu absorbes ce truc-là parce que c'est incroyable ce qui arrive. Et puis il y avait ces poèmes, voilà. Mais des fois la vie peut ressembler à un rêve, mais en même temps ça fait toujours... partie de l'histoire et encore une fois j'espère que ça peut aussi avoir un sens, pas forcément à mes yeux à moi, mais aussi d'autres qui peuvent regarder ce qui se passe dans ces cas-là.
C'est une question pour toutes les deux et notamment je vais commencer par Irsa parce que votre prochain livre sera de la fiction et j'aimerais savoir pour toutes les deux comment vous faites pour passer d'un genre à l'autre et quelle est la difficulté en fait que vous rencontrez de passer d'un genre à l'autre.
Well, my God, I've been trying to get to the fiction, but I think and I thought that this book after the collection of poetry would be a fiction book, But there was too much in the way. And it turned out to be my own story. I would never have elected to write my own story with my personal things in that I always thought were just going to be for me. And they still are mine, but not really. It's something else now. So I tried to get to the fiction a long time ago. Now that this is there and it exists, there is space to dream things up. And so I find that quite a seamless movement, because it's fiction is what I consume, it's what I love, and I think it's been waiting to happen. I just think that my life was such that there were things to get through first. So now that is through, this feels like a holiday, honestly. And yeah, it's fun. It's fun to dream things up. It's fun to make things up. And it can still be poetic and it can still be gritty and all that. But yeah, now I get to invent in a different way. And yeah, I love it. It's like swimming to me. Not that I can swim, because I can't.
Non, en fait, j'ai vraiment essayé dur hein, d'arriver à la fiction. Et après le recueil de poèmes qui a précédé ce livre-là, je pensais en fait que ce livre serait un livre de fiction. Mais il y avait trop de choses qui entravaient encore le passage. J'aurais jamais pensé, rêvé, enfin, imaginé écrire cette forme aussi personnelle, y mettre autant de moi, des choses qui m'appartiennent et qui m'appartiennent toujours, mais qui ont pris une autre forme dans ce livre. Mais je crois qu'il fallait que j'en passe par là pour pouvoir aller vers autre chose. Donc vraiment, ça fait longtemps hein, que je voulais en arriver à la fiction, mais il a fallu que ce texte-là existe, si personnel, pour faire de l'espace justement pour autre chose. Et la transition, elle me paraît totalement fluide, parce que la fiction, c'est ce que je consomme, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me plaît. Donc, et puis, encore une fois, je n'attendais que ça. C'est simplement que la vie que j'ai vécue fait qu'il a fallu en passer par d'autres choses pour parvenir jusqu'à la fiction. Mais aujourd'hui, je prends énormément de plaisir. C'est comme des vacances. Je peux inventer des choses, je peux imaginer, créer des choses, tout en ayant toujours une dimension aussi extrêmement poétique et des tas d'autres choses. Mais j'ai vraiment l'impression pour moi que c'est comme nager, me jeter dans le grand bain, même si en l'occurrence nager, je ne sais pas faire.
Vous, Julia, vous êtes plutôt spécialiste de la fiction et c'est la non-fiction que vous avez moins l'habitude d'écrire. Comment vous voyez les deux genres dans la différenciation d'écriture, d'approche de ressentiment.
En fait, ce que je trouve fascinant, c'est à quel point, alors même que les textes d'arrivée, c'est-à-dire les textes de fiction que j'écris et les textes complètement autobiographiques que j'écris, peuvent à l'arrivée se ressembler, sembler de la même matière, dans l'atelier, au moment où je les fabrique, c'est vraiment des problématiques techniques extraordinairement différentes. Pour le dire simplement, quand on fait de la fiction, de la pure fiction, on doit faire entièrement sortir de sa tête des choses qui n'ont jamais eu lieu et leur donner l'apparence de la réalité si on a l'ambition d'être un écrivain de romans réalistes, et c'est plutôt mon cas. Et donc, des fois, c'est incroyablement difficile parce qu'on place une action à une certaine période historique donnée et donc il faut prendre en compte ce qui s'est passé à ce moment-là. Et puis, il faut que ça ait l'air vrai, alors que... Et puis, il faut inventer toute la psych... Il faut tout inventer, ce qui est très excitant. Mais moi, j'ai tendance à alterner de l'un à l'autre parce qu'après avoir complètement inventé un roman, je me dis « Oh là là, j'en peux plus ». Et à l'inverse, quand on écrit un récit autobiographique, le mouvement est complètement inversé. C'est-à-dire que la matière est là. La matière, c'est l'intégralité de ce qu'on sait, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a retenu, de ce qu'on a entendu. Et dans l'immensité de cette matière, on a le luxe de ne sélectionner que les éléments qui sont romanescables, ceux dont on peut faire... texte, langue, quelque chose de joli, et, ou de joli ou de pas joli, mais en tout cas qui raconte quelque chose. Et donc c'est beaucoup plus facile au départ de prendre dedans. Et en même temps, cette matière-là, elle est plus engageante. Parce que bien sûr qu'on soupçonne toujours les écrivains de s'étaler dans leur fiction, et ce n'est pas toujours vrai. Mais si on décide d'y aller frontalement et de signer un texte en disant ça, c'est autobiographique, on se met dans d'autres draps aussi. Mais au fond, je pense... que cette question-là n'est pas si intéressante que ça, parce que De la même façon qu'on fait tous de la prose tout le temps, on fait tous de la fiction tout le temps. À chaque fois qu'on raconte ce qui s'est passé pendant un dîner, on est en train de fictionnaliser d'une manière ou d'une autre.
Pour le mot de la fin, avant de vous laisser la parole pour le dernier extrait, je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains en herbe ou confirmés dans l'audience qui sont venus vous voir, notamment Irsa. J'ai une question pour toutes les deux et ensuite une question spécifique pour Irsa. C'est qu'est-ce que vous diriez à ces écrivains, à ces personnes qui aimeraient écrire mais qui doutent parce que écrire c'est parfois difficile. Quel conseil vous donneriez à ces personnes?
I think that it would depend upon what the question is and what the difficulty is. I find it a refuge. And I also go to write to surprise myself and to make life rich by, again, I think I said in an earlier question, I'm not someone who, you know, is always taking stock all the time. I like to work it out on the page sometimes. I think it's a great voyage of discovery, writing, and I think that so many people would find such solace in it, or at least some understanding, or at least order their thoughts onto something tangible that they can see and touch, and there it is, the written evidence. So I would say, even just to find yourself, even if you never share it, Just to write for, I always talk to people who I mentor about free writing, you know, just writing without editing or second guessing yourself for 10 minutes, make a practice of it and see what meets you on the page, what is confronting, what do you really think about the thing that you never say, you never tell the person, what do you want them to understand, what are the things that you would ask for if the answer could not be no, if you were going to be granted it. All these questions that hint at something explicit and something, you know, under your seams, write an experiment and see what it is. I think it's a good voyage of discovery. So I would say just do it. Yeah.
Je crois que ça dépendrait évidemment de la question posée, de la difficulté que peut rencontrer la personne. Pour moi, l'écriture, c'est une forme de refuge, mais j'écris aussi pour me surprendre. Et j'écris tout simplement pour rendre la vie plus intéressante, plus riche. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas quelqu'un qui passe son temps à analyser ce qui se passe ou à faire le bilan, mais je crois que parfois, j'aime le faire sur la page. En fait, pour moi, écrire, c'est une façon aussi de découvrir, de se découvrir. C'est vraiment un très bon moyen pour ça. Et je crois que beaucoup de gens y trouveraient sans doute une forme de consolation ou peut-être au moins une forme de compréhension ou tout simplement le fait d'ancrer les pensées, les réflexions qu'on peut avoir dans quelque chose de tangible, le fait de laisser tout simplement une trace écrite, cet objet, même si on ne le partage jamais, même si on n'écrit que pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre et qu'on ne le fait jamais lire autour de soi. Quand j'accompagne des gens qui ont cette aspiration-là, je les encourage toujours à écrire de façon automatique, à expérimenter pendant 10 minutes une écriture totalement libre, sans douter, sans revenir, sans se regarder faire, et de voir ce qui se passe quand on laisse la plume écrire ce qu'on aurait vraiment envie de dire ou les questions qu'on aurait envie de poser si les réponses pouvaient être accessibles. Je pense que tout ça fait partie d'une forme d'expérience en fait, qui permet de toucher à quelque chose d'intime et de faire sortir des choses de soi. Donc pour moi, l'écriture, c'est avant tout un voyage de découverte. Et donc, je répondrai à ces personnes, just do it.
Des fois, je me dis que paradoxalement, évidemment que l'ambition d'écrire un livre ou le fait de le faire est un acte d'extrême orgueil. quelle idée de penser qu'on a quelque chose à raconter et à ajouter à tous les livres merveilleux qui existent déjà. Mais le paradoxe, c'est que la création de cet acte d'orgueil repose au contraire sur une humilité presque honteuse, quelque chose d'extrêmement terne. Et donc peut-être qu'un truc à savoir pour écrire, c'est que tout ce qui va se passer dans l'atelier, toute la préparation, ça va être des actes d'un ennui cafardeux presque, de la répétition, de la correction, être impitoyable avec soi-même parce qu'ensuite l'éditeur le sera et les journalistes et bien sûr les lecteurs et c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc peut-être qu'il faut apprendre à aimer toutes ces opérations a priori très ennuyeuses, aimer le pur travail. Et pendant qu'on le fait, on en oublie qu'on essaye de fabriquer cet objet merveilleux qu'on voit et qu'on n'atteindra jamais vraiment. Mais peut-être c'est ça le secret pour réussir à le faire, c'est d'aimer faire des choses qui semblent très ennuyeuses jusqu'à ce qu'on les ait faites tellement à l'infini qu'elles en deviennent obsédantes.
Et pour Irsa, la spécificité que je voulais rajouter à ma question, c'est précisément pour les femmes noires qui vous lisent et qui se reconnaissent en vous. Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire? Alors, je ne vois pas la salle, mais j'imagine qu'il y en a dans l'audience. Et est-ce que vous avez un message spécifique?
Let's hope there are some. I was asked this question earlier today because I think that being an artist, I'll speak to my specific situation. Being a black woman artist comes with a lot because you not only experience a lot of things that other black women artists have experienced who came before you, but you also have a set of your own because we are not a monolith. And so you are faced with the, I would say, tricky task of being expected to speak for everyone who can't possibly have had your experience, come from different places, have different family setups, and yet you want to address them because it means something and it's important and we must see each other and we must see people that look like us. There's no way to do it right. All I can do is show up as honestly as possible and talk about things and hope. I mean, there were so many times when, not even writing it because I didn't allow that to come through when I was writing, but after the publishing of this in the States, and particularly the UK, when it was very uncomfortable to have something like this out. It wasn't all roses. But it's important to say, this is me, or some iteration of me, and everything is possible. You know, now I'm sitting here doing this, and it's a fantastic experience. What would happen if I had been like shamed out of it or too afraid to talk? What's the point of that? It's a life. I'm not so attached to it that, you know, I don't want to talk about it. And nor, I think, should anybody be who has a specific story to tell, whether it's people that look like me or people who don't. But I hope that in some way, in some facet, I've been a little bit useful to people who look like me and beyond, because really there's no other reason to do anything. It's got to be useful. Storytelling is useful. It saves lives. So yeah, I hope that I've spoken to that in a cohesive way. I'm not sure.
J'espère qu'il y a effectivement des femmes noires dans le public ce soir. C'est une question qu'on m'a déjà posée un peu plus tôt aujourd'hui. Je pense que c'est pas facile parce qu'en tant que, quand on est une, je parle de ma propre situation, quand on est une femme artiste noire, on a beaucoup de choses, ça entraîne beaucoup de choses, on a beaucoup de choses à apporter parce qu'on a à la fois tous justement cette expérience d'autres artistes femmes noires qui sont passées avant nous, qu'on porte en même temps. Et en même temps, on a aussi nos expériences qui sont purement personnelles, parce qu'évidemment, les artistes femmes et noires ne sont pas un bloc monolithique. Mais il y a les deux à la fois, et c'est ça qui est pas évident, parce que on s'attend à ce qu'on parle au nom d'un tas d'autres qui n'ont pas nécessairement le même vécu, qui n'ont pas nécessairement la même origine, le même contexte familial, la même histoire. Et en même temps, ça a du sens de traiter cette question-là, parce qu'on a tous besoin aussi de se voir, de se reconnaître et de s'adresser de cette façon-là les unes aux autres. Donc, je crois que la seule manière de tenter de le faire, c'est d'essayer d'être simplement, d'être le plus honnête possible et d'essayer justement d'être à la hauteur de cet enjeu-là, de cet héritage-là. Mais ça peut être aussi parfois très inconfortable. C'est ce que j'ai vécu parfois après la publication du livre en Angleterre. Ce n'était pas qu'un moment facile, ce n'est pas que simple. Et donc, c'est à la fois de dire que maintenant que ce livre existe, qu'il est là, c'est une itération, une forme de moi, une version de moi. Le fait qu'il existe, que ce soit là, c'est quand même très important de dire que ça signifie que tout est possible. C'est ce qui me permet d'être ici avec vous ce soir et de vivre ce moment-là. Et ça, c'est assez fantastique. Et si on m'avait empêcher, décourager en fait, d'écrire ce récit-là, de cette version de moi, par honte ou parce qu'on m'a dit que cette vie-là n'était pas intéressante, ben, qu'est-ce qui se serait passé? Et je pense que c'est très important que ce message-là soit passé, justement, que ce soit à des personnes qui me ressemblent ou pas. Celui que quand on a une histoire à raconter, personne ne devrait vous décourager de le faire. Parce que raconter des histoires, c'est extrêmement utile. C'est quelque chose qui peut sauver des vies même. Donc j'espère avoir, en le faisant, été utile à d'autres que moi, qu'ils me ressemblent ou pas.
Merci beaucoup Irsa et Julia. Avant de leur laisser la parole, je vais juste vous dire qu'il y a vous pouvez acheter un livre dans la librairie en face. Et donc, Irsa fera une petite séance de dédicace à l'entrée. Merci beaucoup. Je vous laisse la place.
Awayness, an almanac. The terrible meets a strange man in a bar who tells you that black people in his country are lazy, and the terrible jumped right out and almost stabbed him. The terrible shocks you in ways that you could never imagine, tripping you up, doing things you shouldn't do, and things that you wouldn't do. Making a fool of you. It is shifty and sometimes invisible, sometimes on holiday. A good decision here, some abstinence there, some moderation there. And you think it's left you alone, but then you're walking and the terrible is a hole waiting to catch you. A fucking hole in the ground. The terrible is why you cannot call your grandparents, and the terrible is why no one can hear from Rue, and the terrible is no Rue and distance from Samson, and the reason why, when Grandma takes Marcia's ashes away from the house, nobody complains. The terrible is a wall of smoke, always getting in the way, obscuring everything. William calls you on your birthday this year and the next and the next. And the terrible will not return his calls, making you wonder what kind of godless spirit destroys a perfectly beautiful thing. It trips you up to trip you up to trip you up to trip you. It gathers around your neck like a charm, a teardrop of rust. It puts a hole in your throat and stuffs it up with yarn. The terrible sighs again. The terrible gets warm inside when the man that is trouble buys you one last whiskey, the one to take you over the edge. The terrible cries and cannot believe it when you're picked for the job over the other girls. It flips, turns your belly upside down. The terrible takes you out for ice cream and no dinner when you sell your mother's house after 2.5 damn years and starves it of alcohol. Perhaps it is your friend. Perhaps the terrible is your heart. Perhaps the terrible loves you, after all. Don't you know I've been carrying you throughout all of this, says the terrible. Don't you know you're one of the lucky ones, shouts the terrible. Don't you know I've got you, you ungrateful, ungrateful creature, you wretch. Don't you know those dark times kept you stronger, thus saith the terrible. Don't you know without me you'd just be another girl with an everyday life and an almost house, always under construction, and a man you tolerate but don't really love, and a father you met but who stopped you from doing anything and seeing the world. Don't you know you'd be a boring woman with bills and a horrible job and wrinkles around her eyes and babies and babies and a mortgage and savings and boring sex or no sex and a lukewarm life? Don't you know I kept you safe, bellows the terrible, its yellow eyes gleaming. Don't you know I gave you the best timelines, a glittering story, a punchline, a reason to live? Don't you know the drugs didn't kill you? They could have or should have and never did. Don't you know your life has been one magic spell cast over the other? Are you stupid? Screams the terrible. Well, are you? Don't you know that without me you die in the mundane? Have you learned nothing? Don't you know you earned resilience? Don't you know I kept you rich? No, I didn't think so, sniffed the terrible, shaking his, her, their heads violently in the wind, turning away from each other and the world. And why did you never love me? Demands the terrible. Her, his, their glittering yellow eyes, wet with rage. Thank you.
Le terrible rencontre un homme étranger dans un bar qui te dit que les gens noirs dans son pays sont paresseux, et le terrible lui saute immédiatement dessus et le poignarde presque. Le terrible te choque d'une façon que tu n'aurais jamais imaginée. Il te fait trébucher, il te fait faire des choses que tu ne devrais pas faire et des choses que tu ne ferais pas. Il te ridiculise. Il est évasif et parfois invisible ou en vacances. Une bonne décision par là, un peu d'abstinence par-ci, un peu de modération et tu penses qu'il t'a laissé tranquille, mais après tu marches et le terrible est un trou qui n'attend que de te piéger. Un putain de trou dans le sol. Le terrible est la raison pour laquelle tu ne peux pas appeler tes grands-parents. Et le terrible est la raison pour laquelle personne n'a de nouvelles de Rue. Et la distance de Samson est la raison pour laquelle, quand grand-mère emporte les cendres de Marcia, personne ne se plaint. Le terrible est un mur de fumée qui se met toujours dans ton chemin, obscurcissant tout. William te téléphone le jour de ton anniversaire, cette année et la suivante, et la suivante, et le terrible ne le rappelle pas, te poussant à te demander quel genre d'esprit impie détruit une chose si belle. Et tu dégringoles, et tu dégringoles, et tu dégringoles. Il se resserre autour de ton cou comme une breloque, une larme de rouille. Il fait un trou dans ton cœur et le remplit de fil. Le terrible soupire. Encore. Le terrible a chaud à l'intérieur quand l'homme qui sent les embrouilles te paie un dernier whisky, celui qui va te faire vriller. Le terrible pleure et ne peut pas y croire quand tu es choisi pour le job parmi toutes les autres filles. Ça te retourne le ventre. Le terrible t'emmène manger de la glace en guise de dîner quand tu vends la maison de Marcia après 2 putains d'années et demie et sa femme d'alcool. Peut-être que c'est ton ami. Peut-être que le terrible est ton cœur. Peut-être que le terrible t'aime après tout. Tu ne sais pas que je t'ai aidé tout du long, dit le terrible. Tu ne sais pas que tu fais partie des chanceux, crie le terrible. Tu ne sais pas que je m'occupe de toi, espèce de créature ingrate, misérable. Tu ne sais pas que ces temps sombres t'ont rendu plus forte, ainsi parlait le terrible. Tu ne sais pas que sans moi, tu serais juste une fille de plus avec une vie de tous les jours et une presque maison toujours en travaux et un mec que tu tolères mais que tu n'aimes pas vraiment et un père que tu as rencontré mais qui t'empêche de faire quoi que ce soit et de voir le monde. Tu ne sais pas que tu serais une femme ennuyeuse avec des factures et un job horrible et des rides autour des yeux et des bébés et un emprunt et des économies et du sexe chiant ou pas de sexe et une vie tiède. Tu ne sais pas que je t'ai protégée, putain, rugit le terrible, ses yeux jaunes étincelants. Tu ne sais pas que je t'ai donné les meilleures lignes de vie, une histoire scintillante, une punchline, une raison de vivre. Tu ne sais pas que les drogues ne t'ont pas tué, elles auraient pu ou auraient dû et ne l'ont pas fait. Tu ne sais pas que ta vie a été une suite de formules magiques lancées l'une après l'autre. Est-ce que tu es stupide ? Crie le terrible. Alors, est-ce que tu es stupide ? Tu ne sais pas que sans moi, tu mourrais, mourrais, mourrais dans la banalité ? Est-ce que tu n'as rien appris ? Est-ce que tu ne sais pas que tu as gagné la résilience ? Est-ce que tu ne sais pas que je t'ai gardé riche ? Non, je ne pense pas, renifla le terrible, secouant ça, ses têtes violemment dans le vent, en se détournant de moi et du monde. Et pourquoi est-ce que tu ne m'as jamais aimé ? Demande le terrible, ses yeux jaunes scintillants, humides de rage.
Merci infiniment, Irsad Ali Ward et Julia Carninon. Merci. Et merci pour la traduction interprétariat.
Je m'appelle Marguerite.
Donc vous pouvez retrouver Irsa à l'entrée pour une petite séance de dédicace. Merci beaucoup.